Bonjour à toutes et à tous. Sauriez-vous dire en quoi consiste au juste le travail d'éducateur de rue? Eh bien, c'est à cette question que va répondre notre invité de ce jour. Vallone Joubi, éducateur de rue au centre de loisirs de Sion, va nous parler longuement de sa profession. Je vous propose donc d'écouter cette interview réalisée courant avril 2023. Vallone, on va voir ensemble en quoi consistent les trois principaux types d'activités de votre travail. Je les énumère rapidement. On a en premier lieu la prévention. En deuxième lieu, on a l'action et les tournées. Et enfin, on a le réseautage. On va donc commencer par la prévention. En quoi est-ce que cela consiste ?
Alors, il y a plusieurs formes de prévention. Nous, on l'utilise souvent dans les écoles, en fait, là où on est appelé pour aller rencontrer les élèves. On a la chance de pouvoir avoir aussi des temps qui ne sont pas extrascolaires, mais qui sont scolaires, ce qui veut dire que pendant les heures d'école, on a la possibilité justement d'aller voir ces jeunes-là pour plusieurs campagnes, notamment une des campagnes phares, c'est la campagne du respect des gens et des choses, où là, on rencontre trois fois dans l'année scolaire chaque classe de 8H de la ville de Sion. Donc ça fait quand même quelques heures avec eux.
Cela veut dire que tous les élèves de la ville de Sion auront en principe une fois ces cours de prévention.
Exactement, oui. Donc chaque élève de la ville de Sion, donc on parle seulement des 8H. Hein, donc là, on est sur cette campagne-là avec les 8H. Ce qui est aussi assez sympa à voir aussi sur la longueur, c'est que cette campagne-là existe depuis 2006. Ce qui fait que en 2006, les premiers élèves qui ont connu cette campagne ont aujourd'hui dans les 25 ans. Et puis, pour un exemple très, très concret, j'ai pu rencontrer en fait des jeunes que j'avais vu lors de la première campagne, en fait, la première fois qu'on a lancé cette campagne, qui ont maintenant entre 25 et 27 ans, et puis qui m'ont reconnu en fait dans une soirée, et puis qui m'ont offert un verre, on a discuté, et puis c'était vraiment quelque chose de très sympa, puis c'est aussi un peu une forme de salaire, de se dire, voilà, ils ont retenu quelque chose, même 15 ans après, ils ont retenu quelque chose, et puis ça c'est aussi la preuve que c'est quelque chose d'utile.
On va juste rappeler 8H, ça veut dire des élèves de quel âge ?
C'est des élèves qui ont entre 11 et 12 ans. C'est juste avant de passer au cycle.
Très bien. Ouais. Alors, comment ça se passe concrètement ? Il y a plusieurs périodes sur l'année, je crois. Hein.
Oui, alors justement, là, en termes de prévention, nous, pour cette campagne-là, on passe en début d'année, donc ça veut dire un mois après le début des écoles, au mois de septembre, fin septembre, où là, on propose de remplir en fait un questionnaire qui traite du climat scolaire. Donc, c'est une cinquantaine de questions avec des vidéos, avec des images, etc. Et puis, les élèves en fait répondent de façon anonyme, qui fait qu'ils ont aussi des fois un peu plus la facilité de dire les choses, surtout que certaines questions sont dirigées un peu sur le harcèlement, cyberharcèlement, etc. Et puis, ça nous permet justement d'avoir en fait des réponses par classe, par école et aussi pour la ville, en somme, pour dire, en ville de Sion, tout ce qui concerne les 8H, il y a tant de jeunes qui se sentent bien ou qui se sentent un peu moins bien de venir à l'école, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne le climat scolaire. Ça, c'est le temps 1 de cette campagne-là. Le temps 2, en fait, on passe dans chaque classe une matinée complète où là, on divise la matinée en deux. Ça veut dire que la première partie de la matinée, on parle de harcèlement. Et puis là, on prend des situations concrètes, des situations que eux ont peut-être aussi vécues. Et puis la deuxième partie, on parle de cyberharcèlement, donc là où on donne aussi un petit peu des pistes de comment faire, parce qu'aujourd'hui, ces élèves-là, on se rend compte qu'ils sont nés en fait avec un attel dans les mains et avec les réseaux quasi déjà prêts pour eux. C'est des choses qui sont assez dangereuses aussi, donc du coup, on essaye de faire aussi un peu la part des choses, d'amener le bien de ce que les réseaux peuvent amener et puis de faire aussi attention à ce que eux peuvent endurer ou bien peuvent vivre de plus négatif, on va dire.
Pour cette matinée, est-ce que vous êtes seul ou vous accompagnez de spécialistes ?
Non, alors généralement, on est deux éducateurs. deux éducateurs de rue. Et puis là, il y a une plus grosse préparation qui est faite en amont. Ce qui veut dire que bah, nous, on prépare, on a un PowerPoint, on a des images, on a des vidéos aussi à leur montrer. Et puis on essaye, en fait, si on veut bien, la matinée, elle est riche, c'est grâce aux élèves en fait, qui la suivent. Parce que nous, on amène quelque chose, c'est certes, mais le plus riche, c'est eux qui les amènent, en fait.
Donc vous essayez vraiment de leur donner la parole le maximum,
Clairement.
soit pour des questions, soit pour qu'ils parlent de leur expérience, etc.
C'est ce que nous, on vise, ouais. Donc c'est clair qu'il y a des matinées un peu plus longues que d'autres, parce que des fois, ben voilà, les jeunes ne sont pas forcément attirés, ou bien ont peut-être un peu plus peur ou autre, mais c'est clair que la plupart du temps, ben, c'est toujours eux qui amènent en fait les situations, qui amènent des choses concrètes, qui posent des questions aussi assez concrètes, parce que ben, peut-être qu'ils se posent la question, ils se questionnent sur une situation que eux ont vécue en se disant, mais est-ce que c'était du harcèlement, ou est-ce que c'était du cyberharcèlement, ou est-ce que ce que j'ai vécu, faut que j'y fasse attention, ou bien à qui je peux en parler, etc., etc. Donc voilà, on donne un petit peu ces pistes-là pour le temps 2.
On va passer maintenant à la troisième période de l'année, donc j'imagine en fin d'année scolaire, quelque chose comme ça.
Exactement. Dans le deuxième semestre, on repasse en fait pour le temps 3 de cette campagne dans les classes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est accompagné de partenaires. On est accompagné par la PRVC, donc la police de proximité des villes du centre. Et puis, on est aussi accompagné par le secteur jeunesse de la ville de Sion. Et puis les chauffeurs de bus. Donc, ce qui veut dire qu'on va, en fait, avec un bus, chercher les jeunes en classe, enfin, à leur école. On les amène au RLC, on fait une petite visite guidée assez rapide de ce que propose le RLC. On fait une première présentation au RLC. Et puis ensuite, on reprend le bus et puis on les amène au cours Roger Bonvin, qui va devenir un petit peu le centre jeunesse de la ville de Sion d'ici quelques années. Et puis, on leur propose justement les quelques projets qu'il y a déjà eu. Notamment le skatepark, les graffitis légaux, donc il y a des murs qui sont mis à disposition légalement par la ville de Sion pour faire du graffiti. Et puis voilà, on leur explique comment est-ce que c'est né. Et puis on leur donne aussi la possibilité, ou peut-être juste le savoir, de se dire, bah, ok, il y a possibilité de faire des projets avec la ville de Sion, il faut que j'aille voir telle et telle personne et puis que j'en discute. Et puis ensuite, on reprend le bus depuis le cours Roger Bonvin, on s'arrête à la Planta. Et puis à la Planta, on divise la classe en deux. Et il y a une partie de la classe qui reste pour une prévention dans le bus, avec le chauffeur du bus, sur les comportements à avoir dans un bus. Et puis l'autre moitié de la classe va dans les locaux de la police, en fait, de la PRVC, pour une petite visite et puis aussi une présentation sur les risques et ce que eux peuvent. Enfin, ce que leurs actes peuvent engendrer comme risque par la suite. Donc voilà un petit peu les trois temps de la campagne du respect des gens et des choses qui existent ben, depuis 2006.
Est-ce que vous avez des moyens un petit peu de mesurer l'impact qu'a cette prévention? Est-ce que vous avez régulièrement des retours des professeurs, par exemple, ou de la direction des écoles, ou de
Alors, des
la
retours de
police?
professeurs, oui, parce que en fait, nous, on a dû s'adapter depuis 2006. En fait, on a dû adapter à chaque fois la prévention qu'on fait pour cette campagne-là, parce que les problématiques, les thématiques qui arrivent avec les jeunes, ben, elles sont différentes. Moi, je me souviens qu'en 2006, quand on a commencé, il n'y avait pas forcément de réseaux sociaux, c'était pas un problème en soi, mais le problème principal, c'était ben, la thématique du racisme, par exemple, de la violence, etc. Donc aujourd'hui, on parle plus beaucoup en fait de violence. Alors oui, de certaines violences, mais qui sont plutôt tournées vers les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, la violence verbale, elle est tellement facile avec ces réseaux sociaux que bah, aujourd'hui, on a dû s'adapter. Donc c'est clair que les professeurs et la direction des écoles, dans un sens, nous félicitent et nous remercient parce qu'on arrive justement à s'adapter à ces problématiques-là. Et ben bah, aussi à attirer un petit peu le jeune à poser des questions, à poser des situations aussi concrètes sur la table en disant, ben voilà, moi j'ai vécu ça, comment est-ce que j'aurais pu faire ou bien comment est-ce que je peux faire si une fois je revis la même chose?
Et est-ce que vous avez eu vraiment parfois des classes qui manifestement ne s'intéressaient pas du tout au sujet?
Oui, c'est arrivé et bizarrement, c'est les classes où il y a le plus de problèmes. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, ben, le professeur de la classe nous a contactés pour nous dire, ben, écoutez, est-ce qu'il y a possibilité de faire une activité ou bien une matinée ou une après-midi différente, mais sur la problématique que cette classe connaît? Et
Dans
puis
le fond,
là.
c'est peut-être pas si étonnant parce que celui qui est impliqué dans de la violence, lui-même, il ne veut pas trop entendre parler de ça. Ça peut
Oui,
paraître
clairement. Ouais,
logique entre guillemets, disons.
dans un sens, oui. Maintenant, c'est clair que nous, on a eu pas mal de situations assez concrètes où quelqu'un qui fait endurer ou bien qui utilise la violence, peu importe laquelle, contre quelqu'un d'autre, c'est parce que lui, il la vit aussi, par exemple, à la maison ou bien avec quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il veut se venger un petit peu de ce que lui vit, mais il n'arrive pas à se venger sur la personne qui lui fait vivre ça.
Soit se venger, soit c'est plus fort que
Ou
lui
soit,
parce
voilà.
qu'il reproduit un peu un schéma qu'il a à la
Exactement. Ah ouais.
maison. Et dans ce cas-là, justement, est-ce que vous pouvez éventuellement proposer au jeune de discuter seul avec lui
Bien
en
sûr.
dehors de la classe,
Bien sûr. Ah
etc.?
ouais. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours deux, en fait. L'objectif, c'est qu'on soit deux, c'est que durant la matinée, si tout d'un coup, il y a un jeune qui se sent pas à l'aise, ou bien alors qui. Pour lui, c'est trop fort parce qu'il a vécu ça et puis que ça lui rappelle des mauvais souvenirs, etc. Ben, on a la possibilité justement de prendre ce jeune-là, de sortir de la classe pendant que l'autre éducateur continue la prévention et puis la matinée, puis qu'un des éducateurs prenne du temps avec ce ou cette jeune pour pouvoir discuter, pour pouvoir voir un petit peu ce qui est faisable ou pas, et puis pour surtout aussi pour lui proposer pour la suite. Quand nous, on est parti de la classe, je veux dire, il y a toujours une possibilité de nous appeler. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est toujours deux en gros dans les classes.
Et est-ce que parfois vous proposez aux jeunes de voir un psychiatre, un psychologue,
Alors clairement, là maintenant, ça, justement, c'est aussi lié un petit peu avec le réseautage, c'est qu'on a la chance d'avoir un réseau qui est assez énorme. Pour donner un exemple très concret, hein, la police un jour a arrêté trois jeunes parce qu'ils s'accrochaient en fait derrière un bus avec leur trottinette. Donc quelque chose de très dangereux. Bah, le chef de la police nous a appelés en disant, mais nous, si on leur met une amende, bah, c'est papa et maman qui vont payer l'amende. On aimerait que eux comprennent en fait la dangerosité de leur acte. Est-ce que vous auriez quelque chose à proposer, une forme de prévention ou quelque chose? Puis alors, on a réfléchi avec nos collègues et puis on s'est dit, mais oui, on peut leur proposer quelque chose. Donc en fait, ce que la police a fait, c'est que oui, ils ont mis une amende, certes, mais c'était une amende qui est normale en fait pour leur acte. Mais ils ont ordonné, en fait, ils ont dit à ces jeunes qu'il y avait une obligation de suivre une demi-journée avec les éducateurs de rue. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été faire une visite de la Souva avec ces jeunes-là.
On va préciser ce que c'est la Souva.
Alors, Souva, c'est une clinique de réhabilitation, enfin, où il y a des accidentés qui reprennent un petit peu la marche. Et puis qui, voilà. Donc, j'ai pas tous les détails en tête, mais c'est une clinique qui propose justement une
Assurons donc. Hein.
voilà, action, exactement. Et puis bah, nous, on connaît un des chefs là-bas, et puis on l'a appelé en lui disant, écoute, voilà, on a une situation comme ça, avec trois jeunes. On aimerait leur faire comprendre que s'ils continuent leur acte, bah, ils risquent justement de finir ou de se retrouver bah, dans ta clinique. Et puis on aimerait juste qu'ils comprennent par des images, par des choses qui sont vraies, puis qu'ils voient. Hein, l'image que j'ai, c'est qu'en arrivant, ben, le jour-là qui a été organisé, en arrivant avec ces trois jeunes, on voit devant la porte de la Souva, donc en rentrant devant la porte, un monsieur qui était en chaise roulante, qui avait une jambe en moins, et puis une autre personne qui avait un bras en moins, qui fumait sa cigarette à côté. Et puis les jeunes se regardent un peu entre eux, et moi je dis à un des jeunes, je dis, ben, tu vois, ça c'est des gens qui ont eu des accidents. Et je pense que si tu continues à t'accrocher derrière un bus avec ta trottinette, le jour où tu as un accident, ben, le bus il gagne. Donc tu risques de te retrouver peut-être avec une jambe en moins ou peut-être avec un bras en moins, et ça je te le souhaite vraiment pas. Tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi, il faut profiter de faire des choses qui sont positives, constructives, et pas juste un petit peu débile pour montrer aux copains que tu es fou et puis que tu oses faire des choses. Et puis, voilà. Donc c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné. D'ailleurs, deux de ces jeunes-là finissent leur apprentissage de cuisinier et puis de menuisier. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont des fois assez simples à faire. Là, on a fait une visite, hein, donc c'est simple, c'était pas quelque chose de trop méchant pour eux. Ben, c'est quelque chose qui les a fait réfléchir, et puis ben, ils n'ont pas recommencé leur bêtise, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ils sont dans un apprentissage, ils vont finir leur apprentissage, ils vont rentrer dans une vie professionnelle pure et dure, comme on le connaît tous. Et puis ben, nous, ça, c'est aussi un peu une partie de notre salaire. Parce qu'on a amené quelque chose à un moment à quelqu'un, enfin un moment précis à quelqu'un qui en avait besoin peut-être. Et puis, ben, avec le temps, on voit aujourd'hui qu'il y a de l'évolution et puis c'est génial. Enfin, nous, on aime beaucoup ça. Enfin, c'est gratifiant pour nous de voir ce résultat-là quand on a amené quelque chose d'assez simple à quelqu'un.
Très bien. On a parlé donc de la prévention dans les écoles, mais il y a aussi la prévention lors de soirées qui sont organisées, je crois, 8 fois par an à peu près.
Oui, exactement, ouais.
Et là, est-ce qu'il y a à chaque fois un thème différent ?
Alors ça, c'est des thématiques qui ont été amenées justement par la rencontre de quasi tous les élèves des cycles en fait, d'orientation de la ville de Sion. Et puis, en fait, c'est des thématiques qui sont choisies un petit peu par certaines problématiques. Ça veut dire que, pour prendre un exemple, on a eu une thématique sur le suicide, une thématique sur le changement du corps, une thématique sur les accidents de la route, une thématique sur la délinquance. Enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été amenées par ces jeunes-là qui sont super intéressantes. Et puis quand nous on a choisi ces thématiques-là, on s'est dit pour chaque thématique, en fait, on a besoin d'un partenaire spécialiste de la thématique qui vient justement lors de la soirée qui est organisée. La prochaine, c'est justement avec la PRVC sur les dangers de la route.
La police, donc.
Donc la police. Et puis, avec la police, il y a aussi un jeune qui a eu un accident de moto qui va venir aussi témoigner lors de cette soirée pour montrer aux jeunes que la vie, elle s'arrête pas non plus quand on a eu un accident. Et puis que lui, il a dû s'adapter à certaines choses. Aujourd'hui, il est en chaise roulante. Il ne peut plus faire de moto, c'était sa passion, enfin bref. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont amenées par les jeunes, et puis quand nous on les organise, on amène justement le partenaire spécialiste pour pouvoir attirer aussi un petit peu le jeune, puis pour que le jeune il ait aussi les meilleures réponses à ces questions en fait.
Et c'est des soirées qui sont gratuites, bien évidemment.
Alors, soirées gratuites, totalement gratuites.
En moyenne, vous avez combien de jeunes qui viennent ?
Alors, en moyenne, c'est entre 10 et 15 jeunes qui viennent selon la thématique. Après, c'est clair que si on est 50, on peut pas faire le même travail. Et puis, la soirée est peut-être un peu plus informative qu'une forme d'échange, quoi. C'est clair que quand on est 10, y a un échange qui peut se faire un peu plus facile que quand on est 50, quoi. Alors, 50, on n'a jamais eu, mais c'est vrai qu'entre 10 et 15 personnes, selon la thématique, ça change déjà un petit peu. Ouais.
Valone, on va maintenant passer au deuxième pan de l'activité, c'est l'action et les tournées. En quoi est-ce que ça consiste ?
Alors, les tournées en elles-mêmes, comme son nom l'indique, c'est des tournées dans la rue, en fait. On essaye d'aller voir en fait les jeunes dans des lieux assez précis, un peu stratégiques jeunes dans la ville de Sion. Je prends un exemple comme la gare, où il y a souvent des groupes de jeunes qui traînent, qui mettent de la musique, qui boivent leur bière, qui fument leurs cigarettes, etc. Et des fois, ça dérange un petit peu les passants parce qu'ils font du bruit, etc. Puis nous, on va des fois un petit peu les voir pour discuter avec eux, de savoir si eux rencontrent des problématiques ou pas, s'ils ont des besoins ou autres. Et puis, ça nous est arrivé une fois, plus d'une fois, mais on est descendu avec le baby-foot, on a mis le baby-foot dans le bus, on est arrivé en plein milieu de la gare, on a sorti le baby-foot, puis on a proposé un baby-foot gratuit à ceux qui étaient là. Puis ça a fait plein de magnifiques échanges, parce que ces jeunes-là qui, entre guillemets, qui étaient problématiques pour certaines personnes, ils ont pu échanger avec ces gens-là en jouant au baby-foot. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie aussi un petit peu des tournées, des actions.
C'est que le soir, j'imagine.
Alors non, c'est pas que le soir, parce que au début, on a fait ça que le soir, les week-ends, donc les vendredis et les samedis soirs. Mais aujourd'hui, ça nous arrive de tourner un mardi matin, un mercredi matin, ou un jeudi matin, ou un jeudi après-midi, parce qu'on se dit que si tout d'un coup on tourne puis qu'on voit un jeune qui devrait être à l'école puis qu'il n'y est pas, c'est aussi du travail concret pour nous en termes d'éducateurs de rue. Donc là, on va voir ce jeune-là où des fois on lui demande « t'es pas à l'école, qu'est-ce qui se passe ?» Puis là, à ce moment-là, des fois, on peut ressortir certaines problématiques de ce jeune ou cette jeune qui rencontre une situation assez délicate et puis qui ne va plus à l'école ou qui a été renvoyé ou qui... Voilà.
Dans ces cas-là, de jeunes qui ne sont pas à l'école alors qu'ils devraient y être, est-ce que la plupart du temps, ils entrent en matière ou est-ce que assez souvent, ils ne veulent peut-être pas dire pourquoi ils ne sont pas à l'école, etc.
Alors au début, c'était très dur. Au début, pour nous, c'était assez dur parce que on n'était pas connus, on n'était pas reconnus. Puis les gens pensaient, parce qu'ils nous voyaient de temps en temps avec la police, donc ils pensaient qu'on était des indics de la police. Et puis, petit à petit, bah, on a pu faire un petit peu notre chemin, on a pu faire connaître notre métier, on a pu se faire connaître nous-mêmes. Donc, en gros, aujourd'hui, les jeunes savent qui est l'éducateur de rue ou qu'est-ce que fait l'éducateur de rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aborder un jeune et puis que ce jeune-là rentre un petit peu en contact qu'au début.
Et puis, il y a aussi les familles que vous accompagnez. Comment ça se passe?
Alors là, on a aussi des suivis qui sont soit individuels, soit de groupe, ou alors de l'aide à la famille. Alors ça, c'est souvent les familles qui nous appellent, ou alors des fois la direction d'école qui transmet à la famille, je prends un exemple concret, mais un jeune qui a des soucis à l'école, par exemple, ou bien des soucis de comportement à l'école, et puis que la direction d'école fait un entretien avec les parents. À ce moment-là, si les parents disent, bah voilà, oui, à la maison, je rencontre aussi un petit peu des problèmes avec mon fils ou avec ma fille, bah à ce moment-là, la direction d'école propose justement l'intervention d'un éducateur de rue à la maison. Mais c'est la famille qui doit faire appel à l'éducateur de rue. Et bah, on a l'information de la direction d'école qui nous dit, bah voilà, on a une situation de telle et telle personne qui va vous contacter, tenez-nous au courant de ce qui se passe et comment ça se passe. Puis à ce moment-là, ben, la famille nous appelle en disant, ben voilà, on a besoin d'un coup de main ou bien de certaines astuces pour la maison. On prend rendez-vous avec elle, on va à la maison, on discute un petit peu avec eux. Alors, la première rencontre, c'est souvent une petite discussion entre nous pour qu'eux puissent nous partager un petit peu la problématique. Et puis que nous, on puisse aussi après prendre quelques notes et puis se dire, bon, ben ok, là, il y a un souci, est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là ou est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là? Est-ce que nous, on peut amener quelque chose à la famille ou pas? Et puis, encore une fois, ben, si nous, on ne peut pas amener grand-chose à la famille, à ce moment-là, on regarde notre réseau et puis on contacte notre réseau pour pouvoir trouver la personne idéale, en fait, pour eux, quoi.
Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner sans que, bien sûr, personne puisse se reconnaître, mais juste pour qu'on puisse avoir une idée?
Alors oui, clairement, j'ai plusieurs exemples, mais un qui me vient en tête aujourd'hui, c'est un jeune qui avait des soucis de comportement en fait à l'école.
C'est-à-dire harcèlement, des choses comme
Non, non,
ça,
non,
ou...
c'est juste voilà, c'est le langage qui n'était pas approprié. C'était aussi bah, voilà, il se levait un peu quand il voulait, il faisait un peu comme il voulait en classe. Et puis la direction d'école m'a transmis justement entre guillemets, le dossier ou le nom de la personne. Les parents ont pris contact avec moi. J'ai pu aller rencontrer les parents. On a essayé de mettre en place certaines choses avec le jeune. On a fait aussi des activités avec. Parce que, en fait, le papa et le fils ne se parlaient plus. Et puis, ben, voilà, moi, j'ai mis en place une activité où ils n'avaient pas le choix que de se parler. Et puis, ça a fonctionné. Dans ce cas-là, ça a bien fonctionné. Après, au bout d'un moment, ben voilà, les parents se sont séparés, qui fait que le jeune a eu une rechute aussi à ce moment-là. Et puis, ben, j'ai dû retourner, mais j'ai dû retourner peut-être 2 ans après. Donc, on a réussi à faire le nécessaire pour l'école, pour le jeune, pour que le jeune puisse se calmer et puis finir son école correctement. Après coup, ils n'ont plus eu besoin de moi, donc ils m'ont plus appelé. Je les ai croisés de temps en temps en ville, j'ai dit bonjour et puis juste pris quelques nouvelles. Mais 2 ans après, ben voilà, les parents se séparent et puis là, ben, le père me rappelle en me disant, écoute, j'ai mon fils qui rechute, en fait, qui en termes de comportement, ben, à la maison, ça va plus. Je pense qu'il vit très mal le fait qu'on se sépare, etc., etc. Puis ben, j'ai pu retourner voir le papa, retourner voir le fils. Alors la maman, malheureusement, n'a pas voulu parce que pour elle, ben, elle n'en avait pas besoin. Ce que je respecte totalement, et puis j'ai pas accentué ma demande ou bien dire mais oui, il faut qu'on se voit, etc. Celui ou celle qui veut pas nous voir, nous on n'oblige personne à rien faire. Et puis bah aujourd'hui, le résultat c'est que ce jeune-là bah, est en apprentissage, tout se passe au mieux, il fait un petit peu sa vie, il va voir de temps en temps sa maman, de temps en temps son papa, et puis voilà, donc on a réussi à mettre en place une certaine confiance entre le père et le fils qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, ils se parlent un peu plus que d'habitude. Donc voilà, on a ce genre de cas concrets qui arrivent, puis des fois ça marche pas du tout. Des fois on arrive dans une famille où on voit que ni les parents sont preneurs, ni les enfants sont preneurs. Ben, à ce moment-là, on dit nous à la direction d'école en disant, écoutez, on a été dans la famille, on a fait une première rencontre, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui a envie d'avoir un suivi à la maison. Donc peut-être qu'il faut voir plus loin, peut-être qu'il faut voir avec un psy, peut-être qu'il faut voir avec, je sais pas qui.
Est-ce que
pour un jeune ou pour n'importe qui viendrait chez vous pour des conseils, une écoute, est-ce qu'il faut recommander d'aller chez un psychologue, un psychiatre? Et puis deuxième chose, est-ce que vous pouvez, la personne peut aller et chez vous et chez le psychiatre en même temps?
Alors oui, maintenant, la chance qu'on a, puis le petit plus qu'on a, c'est que on peut justement s'adapter un petit peu à la personne. On peut aller chez la personne aussi. Donc du coup, c'est quelque chose que, par exemple, un psychiatre ne peut pas faire. Un psychiatre va donner des rendez-vous et puis la personne va devoir s'adapter à ce rendez-vous-là. Maintenant, que cette personne aille chez un psychiatre et chez nous aussi, c'est des choses qui sont faisables. Maintenant, nous, c'est clair que du moment où on voit qu'il y a une problématique qui peut être uniquement gérée par un psychiatre, on va être très clair avec la personne en disant « Malheureusement, nous, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ce qu'on te conseille, c'est d'aller voir ce psychiatre-là ou bien d'aller voir un psychiatre que toi, tu connais ou autre et puis de pouvoir voir avec lui. Ou si tu veux, on vient avec toi. On essaie d'aider puis d'encourager un peu la personne à faire les choses d'elle-même. Mais c'est clair que si la personne a un besoin un peu plus fort, on peut aussi l'accompagner. Donc, c'est pour ça que je disais que le réseautage est aussi assez important. C'est qu'on a vraiment toutes sortes de personnes dans ce réseau-là.
Intervenants possibles.
Exactement. Ouais. Qui fait que, on peut, si nous, on n'est pas capable ou bien si on n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir régler un petit peu la problématique ou amener des solutions à cette problématique de cette personne, on peut justement la rediriger sur notre réseau et aussi la motiver puis l'encourager et puis aller aussi avec elle vers ce réseau-là.
Malone, quand quelqu'un vous appelle pour avoir des conseils, une écoute, quand c'est une personne privée, quand ça ne vient pas d'une institution, est-ce que, première chose, c'est un service qui est gratuit?
Alors oui, pour la personne alors qui est gratuit, si la personne habite à Sion en fait. Parce que on est, en fait, nous on est employés de la ville de Sion, qui fait que c'est les citoyens de la commune de Sion en fait qui bénéficient gratuitement de ce service-là. En somme, si on veut bien, j'aurais pas le droit, enfin j'ai pas forcément le droit d'aller à Grosne m'occuper d'un jeune ou autre. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, nous on préfère aussi dire à la personne, je prends un exemple, quelqu'un qui m'appelle de Saviez ou de Grosne ou de Grange ou de je sais pas où, dans ce cas-là, nous ce qu'on fait c'est qu'on les redirige vers notre réseau qui fait le même job que nous mais dans ces communes-là.
Voilà, on va passer maintenant au troisième type d'activité que vous avez, c'est le réseautage. De quoi est-ce qu'il s'agit au juste?
Alors le réseautage pour moi c'est une grosse partie de notre job parce qu'on ne peut pas s'occuper de toutes les personnes qui nous appellent ou de toutes les situations qui sont menées ou qui nous sont amenées. Donc on a besoin en fait de partenaires. Pour moi le réseautage c'est des partenaires avec qui on collabore, c'est des partenaires avec qui on échange. C'est des partenaires à qui on transmet aussi des fois des informations. Pour donner un exemple, si on a un suivi d'une personne, nous on fait souvent signer un consentement en fait par rapport aux informations qu'on peut récolter des médecins, des psys, des pédopsies, de toutes sortes de partenaires. Et puis pour nous le réseautage c'est un pilier qui est assez énorme parce que on a besoin de gens qui sont autour de nous, qui font d'autres métiers, mais qui sont aussi attraits à travailler avec l'être humain.
Le réseautage, c'est aussi des réunions. Par exemple, vous m'aviez parlé lors de la préparation de l'interview d'un groupe de travail autour de la gare.
Oui, alors c'est un des groupes de travail pour lesquels on est appelé. Pour cet exemple-là, le groupe de travail de la gare, c'est tout ce qui gravite en fait autour de cette nouvelle gare qui va exister d'ici quelques années.
Et qui fait partie de ces réunions?
Alors là, il y a des chefs des CFF, il y a des chefs des bus, il y a le responsable du COP Pronto, il y a des gens qui sont aussi, je ne sais plus exactement dans quelle entreprise ils travaillent, mais c'est l'entreprise qui gère en fait tous les travaux qui ont débuté autour de la gare. Et puis là, on échange. Puis nous, on a été invités dans ce groupe de travail parce que c'était un problème pour eux, ces jeunes qui traînaient à la gare et puis qui mettaient la musique fort et puis qui parlaient fort, qui hurlaient de temps en temps. Et puis quand ils ont su que nous, on avait aussi contact avec eux puis qu'on faisait partie de la ville, à ce moment-là, ils nous ont contactés en nous disant ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur qu'est-ce que ces jeunes ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent, comment est-ce qu'ils voient la chose. Et puis, ben, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir croiser un petit peu les regards, surtout quand on a ben, des chefs CFF qui ne sont pas là pour s'occuper des jeunes. Ils sont là pour faire leur travail de ligner les trains, etc. Et puis, ben, nous, on a une autre vision, peut-être un peu plus méta, où on voit un petit peu tout l'ensemble de ce qui se passe autour de ces gars, de voir avec eux ce qui peut être mis en place ou pas.
Très bien. Un grand merci pour cette interview.
Mais merci à vous.